16 et suivants, nous sommes au jour de Pentecôte à Jérusalem et c'est l'apôtre Pierre qui parle maintenant. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. » Il est vrai que le Seigneur a répandu de son esprit sur toute chair et que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans le monde entier pour convaincre hommes et femmes de se tourner vers Jésus à l'écoute de l'Évangile. Mais ce texte le dit aussi le Saint-Esprit d'une manière toute particulière au milieu des serviteurs et des servantes de notre Seigneur Jésus-Christ, avec un programme extraordinaire. Son ministère est là pour nous remplir de puissance et de grâce, pour nous accorder des dons extraordinaires, des dons, des charismes, afin de prophétiser, afin de voir les choses qui doivent s'accomplir et ainsi avoir un grand impact dans ce monde. Ce soir, je voudrais vous parler sur cette idée que l'Esprit Saint est répandu sur toute chair et particulièrement sur ses serviteurs et sur ses servantes. Nous sommes dans les derniers jours, la parole de Dieu s'accomplit. Amen. Le Seigneur, concernant son peuple plus particulièrement, désire deux choses. Jésus le dit à la femme samaritaine, Dieu cherche un peuple d'adorateurs, en esprit et en vérité. Autrement dit, un peuple de sacrificateurs. Le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Que sont les sacrificateurs? Eh bien, ce sont ceux qui s'approchent du trône de Dieu, sans crainte, mais par la foi, par le moyen du sang de Jésus, qui s'approche de lui pour lui apporter louange, adoration, action de grâce, mais aussi prière et intercession. Voilà la première chose que Dieu désire. Mais Dieu désire aussi un peuple qui soit un peuple de témoins. Et un peuple de témoins, c'est un peuple qui porte la parole de Dieu dans le monde entier. Et c'est donc un peuple de prophètes, un peuple d'hommes et de femmes qui se sont approchés de Dieu, mais maintenant qui vont apporter la parole de Dieu aux hommes. Nous sommes appelés à être des adorateurs, nous sommes appelés à être des témoins, des sacrificateurs et donc aussi des prophètes. Dieu donne le Saint-Esprit et il le répand abondamment dans ces derniers jours. Et il est prêt à le répandre sur tous ses serviteurs et sur toutes ses servantes. Et c'est ce que nous pouvons appeler le prophétisme universel. Nous sommes très attachés à la notion de sacerdoce universel. Et nous croyons que nous sommes tous des prêtres, que nous n'avons pas besoin de médiateurs sur la terre entre Dieu et nous. Jésus-Christ suffit. Mais nous devons être aussi attachés pareillement à l'idée importante de prophète et de prophétisme universel. Le Seigneur a répandu son esprit sur toute chair. Et l'apôtre Paul écrit dans la première aux Corinthiens, chapitre 14, verset 31, « Vous pouvez tous prophétiser. » Je crois que le Saint-Esprit a été répandu abondamment et qu'il a été donné pour chacun d'entre nous. Ce projet de l'Éternel est vrai et il s'accomplira. Ce projet de l'Éternel est un projet qui, bien sûr, a commencé à s'accomplir pleinement au jour de la Pentecôte, lorsque le Seigneur, élevé dans les cieux après sa résurrection et son ascension, a donc répandu l'Esprit, comme il l'avait promis, sur les siens, sur tous ceux qui croiraient en aussi grand nombre que le Seigneur les appellerait, a dit l'apôtre Pierre. Mais nous pourrions nous interroger. Si le projet de Dieu est un projet qu'il porte dans son cœur de toute éternité, de faire de son peuple des sacrificateurs et de faire de son peuple aussi des prophètes, pourquoi donc a-t-il attendu tant de temps avant de répandre son esprit? Ne s'est-il pas révélé à Israël bien des siècles auparavant? Déjà au temps de Moïse, le prophète s'écriait, mais qu'il plaise à Dieu de répandre son esprit, surtout de faire de chacun, de chaque membre du peuple, un prophète. Pourtant, il n'en était pas ainsi. Et pendant des siècles et des siècles, l'esprit prophétique n'était déversé que sur quelques-uns. Dieu choisissait quelques hommes, quelques femmes parmi le peuple. Il les appelait. Certains étaient rois, d'autres juges, d'autres prophètes ou prophétesses. Il les appelait, il les oignait de son esprit, il les qualifiait pour son œuvre. Et par l'Esprit de Dieu, alors ils accomplirent des exploits guerriers pour certains. D'autres manifestèrent une sagesse extraordinaire, d'autres encore une habileté manuelle extraordinaire. D'autres prophétisèrent annonçant par avance les choses merveilleuses qui concernent le Messie ou la fin des temps. D'autres accomplirent des miracles, ils guérirent les malades, purifièrent les lépreux et même ressuscitèrent les morts par le Saint-Esprit qui agissait déjà en eux. Mais nous le reconnaissons, ils étaient bien peu nombreux pendant tous ces siècles à être recouverts de l'Esprit prophétique. Pourquoi en était-il ainsi? Eh bien, nous pourrions dire que le peuple d'Israël n'était pas encore suffisamment mature dans la foi. Lui qui marchait non point par la foi, mais par la loi, n'était pas encore prêt à recevoir cette promesse du Saint-Esprit. Et au jour où Dieu s'est révélé au peuple sur le mont Sinaï, alors que bien sûr il y avait le tonnerre, les trompettes, la voix de Dieu s'est fait entendre. Dieu voulait parler au peuple. Certes, Dieu avait dit au peuple, vous ne monterez pas sur la montagne, mais Dieu faisait entendre sa voix. Mais quand le peuple a entendu la voix de Dieu, ils ont dit à Moïse, Moïse, toi, vas-y, monte, écoute ce que Dieu a à nous dire et tu viens nous le dire parce que nous craignons d'entendre la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'a fait le peuple? Il s'est tenu en arrière. Il s'est tenu en retrait. Ils ont dit à Moïse, toi, va, toi, monte sur la montagne, va entendre ce que Dieu veut nous dire et viens nous l'annoncer, nous ne voulons pas entendre. Et c'est ainsi que le peuple d'Israël s'est tenu dans l'éloignement. Dieu aurait voulu faire d'eux un peuple, oui, de sacrificateurs, un peuple de prophètes, mais Israël a choisi une voie d'attentisme, une voie d'observation. Le peuple préférait s'appuyer sur des prophètes plutôt que d'aller entendre directement le conseil du Seigneur. Et il faut reconnaître qu'ils étaient tellement dépendants de leurs prophètes que lorsque ceux-ci manquaient, eh bien la voix de l'Éternel devenait rare. Nous sommes par exemple à l'époque de la naissance de Samuel, qui est encore un petit enfant, et dans ce premier livre de Samuel au chapitre 3, il dit qu'à cette époque, la parole de l'Éternel était rare, les visions peu fréquentes. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu, le sacrificateur Élie, à l'époque était pesant et vacillant, et ses yeux commençaient à se fermer. Et il n'y avait plus personne à cette époque-là pour apporter la parole de Dieu au peuple, sinon que Dieu se réservait encore Samuel, car la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Gloire soit donnée à notre Seigneur. Tout ceci pour dire que, concernant cet esprit prophétique dans l'Ancien Testament, Dieu avait donc choisi quelques hommes, quelques femmes parmi tout le peuple. Il les avait mis à part, les avait recouverts de son onction, de sa puissance et les avait envoyés avec sa parole et ses œuvres. Mais la grande majorité du peuple restait à distance et ils préféraient s'en remettre à des médiateurs, à des intermédiaires. Ils désiraient un culte facile, un culte qui reste dans le lointain. Heureusement, Jésus est venu, n'est-ce pas? N'est-ce pas pour nous? Qu'est-il venu faire? Jésus, par son sang, est venu s'acquérir un peuple, une épouse, son Église. Et le Seigneur est venu chercher un peuple qui soit un peuple d'adorateurs, en esprit, en vérité, un peuple qui ne se contenterait pas à adorer sur une montagne, mais qui adorerait là où il se trouve. Mais Jésus est venu aussi pour se préparer un peuple de prophètes. Et déjà Jean-Baptiste, lorsqu'il vit venir à lui, Jésus pouvait dire de lui, « Il est celui qui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. » Et la promesse s'est accomplie. Au jour de Pentecôte, Jésus a envoyé l'autre lui-même, le Paraclète, le Consolateur. Il a envoyé Dieu parmi les hommes, le Saint-Esprit, pour remplir son Église de sa puissance. Et au jour de Pentecôte, les apôtres et les disciples réunis ont adoré Dieu dans des langues nouvelles. Acte 2 nous dit qu'ils racontaient les merveilles de Dieu dans des langues et nouvelles. Et ils ont commencé aussi à être les porte-paroles du Seigneur, les prophètes de l'Éternel. prophètes de Jésus-Christ annonçant l'évangile avec puissance, avec autorité. Et ils sont allés ainsi de lieu en lieu, de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, le Seigneur travaillant au milieu d'eux, confirmant la parole prêchée par des signes, des miracles et des prodiges. Ils étaient pleins du Saint-Esprit et l'Esprit était avec eux. Et pendant toute l'époque apostolique, eh bien, la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée dans tous les lieux où les apôtres allaient, dans toutes les églises qu'ils implantaient. Les dons spirituels étaient manifestés, les guérisons s'accomplissaient. Les pécheurs étaient saisis par la parole, leur cœur vivement touché. Et puis, après les apôtres, sont venus les premiers pères de l'Église. D'Irénée à Tertullien, du 1er, 2e siècle jusqu'au 3e, 4e, et tous ces pères de l'Église laissent encore pendant ces 2-3 siècles le témoignage de la présence et la manifestation du Saint-Esprit dans les assemblées tout autour du bassin méditerranéen. Et il raconte encore comment, eh bien, dans les assemblées de l'Église, les frères, les sœurs louaient le Seigneur en langue. Il raconte comment les dons spirituels se manifestaient, paroles de puissance, paroles de guérison, paroles prophétiques, de connaissance. Les dons spirituels étaient vivants. Mais une fois que ces pères sont passés, eh bien, il y a eu un déclin. Il y a eu un déclin. Un déclin qui a ramené le peuple de l'Église au temps du peuple d'Israël. Et tout comme le peuple d'Israël en son temps, le peuple de l'Église de ces siècles qui ont suivi les pères, ce peuple a commencé à dire « Le culte que vous nous proposez est trop compliqué, il est trop intense. Nous, nous préférons nous cantonner un peu en arrière. Donnez-nous des formes, donnez-nous une liturgie, donnez-nous des choses faciles à accomplir. » Et puis, ils ont dit, les prophètes seront les évêques. Et les évêques ont commencé à monopoliser le don de prophétie, au point que, dans les grandes églises, si on veut les appeler comme ceci, eh bien, le don de prophétie est depuis des siècles exclusivement réservé aux seuls évêques. Et ils sont revenus aux choses anciennes. Mais ce n'était pas le projet du Seigneur. Dieu merci, tout au long des siècles jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a su se réserver des églises, des hommes, des femmes qui ont gardé cette vie de l'Esprit. Il y a eu, bien sûr, parfois des témoignages un peu débordants, les montanistes, à l'époque du 4e, 5e siècle, mais il y avait cette vitalité qui était là. Plus tard, nous avons entendu parler des Vaudois, nous avons entendu parler de ce grand réveil qui a traversé le sud de la France. On les appelait les enfants prophètes dans les Cévennes, avec des paroles de révélation, quand ces bébés, les bébés de un an, encore à la mamelle, prophétisaient. Parler en français alors qu'ils parlaient que le patois. Quand les petits-enfants annonçaient aux pasteurs dans les assemblées du désert que les dragons du roi arrivaient bientôt, le Saint-Esprit agissait au milieu de l'Église. Mais le Seigneur l'avait dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et Dieu avait donné un rendez-vous à son Église, il a travaillé le cœur des hommes et il leur a donné un rendez-vous au début du 20e siècle. Et nous savons qu'à cette époque-là, que ce soit aux États-Unis ou dans bien d'autres pays du monde, en quelques mois, un réveil extraordinaire a explosé. C'était le réveil de la Pentecôte. Et alors l'Église a de nouveau retrouvé les trésors qui sont les siens. Et partout, des hommes, des femmes très simples, Dieu se glorifie à travers les hommes et les femmes les plus simples. Parmi les communautés noires américaines, de Los Angeles et d'ailleurs, il y avait cette ferveur et on commençait à louer le Seigneur, à adorer Dieu en langue et on commençait à prophétiser et le Saint-Esprit agissait et il y avait ce feu qui se répandait et les hommes venaient de partout pour voir ce qui se passait. Et depuis un siècle, le réveil de Pentecôte n'a pas cessé. Dieu a allumé un feu qui pourrait l'éteindre. Et il se répand de pays en pays, de continent en continent. Il n'est pas aujourd'hui une nation qui ne soit pas touchée par cette action puissante du Saint-Esprit. Dieu agit dans les grandes assemblées, mais il agit aussi par son esprit, là où deux ou trois se tiennent cachés à cause des persécutions. Le Saint-Esprit agit dans le monde entier, au fond de nos cœurs et dans nos assemblées. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, voilà donc un siècle bientôt que le Saint-Esprit a été répandu abondamment sur toute chair. Qu'allons-nous faire? Que faisons-nous? Craignons! Craignons que nous laissions cette puissance décliner. Craignons que nous retrouvions les anciens chemins. Ceux qui ont conduit Israël à dire à Moïse, toi, monte sur le Sinaï. Ou qui ont conduit les chrétiens de l'époque romaine à dire, nous nous contenterons de forme. Vous, les évêques, vous êtes payés pour faire le service de Dieu. Et si je dis cela, ce n'est pas anodin. Parce que je crois que ces choses commencent à apparaître dans les églises pentecôtistes et charismatiques. Ces deux facteurs continuent de se manifester, je vais vous l'expliquer. Dans bien des églises aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent se placer sous le joug et l'autoritarisme de prophètes et oublier que le Seigneur a donné son esprit pour faire d'eux des prophètes aussi. Alors ils placent ces hommes et ils disent « ce sont des prophètes, ce sont nos prophètes ». Et ces hommes, bien sûr, se placent dans cette position. Et ils disent « nous sommes prophètes, prophètes de l'Éternel », mais ils font une confusion parce que nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance. Nous ne sommes plus au temps d'Élie, nous ne sommes plus au temps de Jérémie, au temps de tous ces prophètes, de Samuel et des autres. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et nous ne dépendons pas de la médiation d'un homme, nous ne dépendons pas de la parole autoritaire d'un homme. Et nous voyons bien des gens qui aujourd'hui sont sous un joug, ils se sont placés sous ce joug, ils ont dit « toi, va chercher les paroles de Dieu et apporte-nous les paroles de Dieu ». Ils n'ont pas voulu monter sur la montagne du Seigneur, ils ont dit, et ils sont même prêts, vous le savez, à payer, et même à payer grassement des hommes pour dire « toi, va chercher les paroles et apporte-nous-les ». Mais est-ce là la volonté du Seigneur? Dieu veut que son peuple soit un peuple de prophètes. Il a ouvert le chemin. Il a répandu son esprit. Il veut que ses serviteurs, ses servantes, ses enfants prophétisent. Il ne veut pas que des hommes soient installés dans ce ministère professionnellement. Les prophètes dans le Nouveau Testament existent. Mais leur ministère est un ministère d'encouragement, de prédication de la parole. Ce n'est pas un ministère qui vise à se substituer au Saint-Esprit. Non, mes frères et sœurs, nous n'allons pas nous placer sous le joug d'hommes avec des titres ronflants qui voudraient nous mâcher le travail, mais surtout nous imposer leurs paroles. Nous sommes des gens libres. Nous sommes des adorateurs, des sacrificateurs. Nous sommes aussi des prophètes. Paul l'a dit, vous pouvez tous prophétiser successivement. Et maintenant, je voudrais vous parler du deuxième risque. Le premier risque, nous savons où il se produit, mais je voudrais vous parler du deuxième risque. Et celui-là, il touche aussi nos églises. C'est le même que celui d'Israël qui a dit, oui, toi monte, nous restons là. Parce que le culte là-haut, c'est un culte difficile. C'est un culte exigeant. Et ils sont restés en bas parce qu'ils voulaient un culte facile. Un culte prédigéré. Toi, va chercher les paroles, amène-nous-les. C'est aussi ce que l'Église du 5e, 6e siècle et des siècles qui ont suivi a dit aussi. Nous, on veut un culte facile. Donnez-nous des formes. Donnez-nous une liturgie. On répétera. On ne vous embêtera pas. Donnez-nous les moyens de grâce et ça nous satisfera. Mais voyez-vous, je crains qu'aujourd'hui, nous puissions encore une fois tomber dans ce piège et de dire encore, Seigneur, nous voulons un culte facile, nous voulons un culte allégé, un culte light, diet, comme vous voulez, un culte simple, parce qu'un culte où il nous faut être comme des prophètes, un culte où il faut rechercher ses dons spirituels, un culte où il faut chercher cette communion intime avec le Seigneur, c'est trop compliqué. Tu comprends, Seigneur, il faut faire l'effort de monter. Nous, on préfère rester en bas, entendre d'en bas. Et je crains que ce soit là quelque chose qui mine aussi de nombreuses églises. Et nous devons veiller à cela. Nous ne voulons pas tomber dans une facilité. Mais vous savez, les pressions seront là parce qu'il y a de moins en moins de gens qui voudront monter sur la montagne pour aller chercher la véritable présence de l'Esprit, pour aller chercher les paroles de Dieu. Et de plus en plus, il y aura la pression pour que tout vienne de l'estrade. Et si nous allons trop dans ce sens, comme quelqu'un l'avait écrit, nous allons recoudre le voile déchiré. Nous allons remettre en place une caste de prêtres, de prophètes, et s'éteindra le prophétisme universel et le sacerdoce universel. Mais le Seigneur a dit, dans les derniers jours, je répondrai de mon esprit. Et le Seigneur accomplira sa parole. Comprenons bien que si ce n'est pas avec nous qu'il le fera, c'est avec un autre qu'il le fera. Parce que de toute façon, il le fera. Son feu doit brûler. Parce que Dieu a un projet extraordinaire. Et il cherche des adorateurs et il cherche des prophètes. Et si nous n'y prenons pas garde, rappelons-nous de la parole que le Seigneur a laissée à Éphèse. Repentez-vous, sinon j'ôterai votre chandelier. Que nous puissions prendre garde à tout cela, parce que ce sont des chemins qui sont tracés dans le cœur de l'homme. Mais ce sont des chemins de perdition. Ce sont des chemins qui nous éloignent du véritable projet de Dieu pour nos vies. Mais que nous soyons de ceux qui montent encore sur la montagne de Dieu pour dire, Seigneur, fais de moi un véritable sacrificateur. Fais de moi un véritable prophète. C'est vrai, c'est exigeant comme culte. Mais c'est là le culte que Dieu désire que nous lui rendons. Dieu ne se plaît pas, nous le savons, dans les formalités, le formalisme, la liturgie, quelle que soit cette liturgie classique, contemporaine, ancienne, nouvelle, Dieu ne s'y trompe pas. Quand c'est une liturgie, c'est une liturgie, mais il n'y a rien d'autre. Ça veut dire surtout, Seigneur, rien de compliqué, rien d'exigeant, de la facilité. Veillons, veillons, veillons. Mais que nous puissions ce soir prendre un temps encore pour dire, Seigneur, je voudrais de nouveau monter sur la montagne, tel un adorateur, Seigneur. Non pas me contenter d'entendre les bruits du lointain, mais, Seigneur, venir vers toi, venir m'approcher de toi, venir, Seigneur, chercher ta parole. Parce que, Seigneur, ce soir encore, tu veux répandre de ton esprit sur toute chair. Gloire à Dieu.